Europe Soir,
le 18-20,
Isabelle Millet.
18h48, on poursuit notre débat des grandes voix. Avec moi ce soir, Hamda Mostafavi, rédactrice en chef adjointe à l'Express, Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, et Franz-Olivier Gisbert, écrivain éditorialiste au Point. Alors je voudrais qu'on parle de la réforme de l'islam de France, chère à Emmanuel Macron, pour lutter contre toutes les formes de dérive radicale. Et ben, elle est mal engagée, cette réforme. Le président avait demandé aux fédérations formant le Conseil français du culte musulman de rédiger une charte de valeurs pour affirmer leur attachement aux lois et aux principes de la République. Ça semblait simple. Écoutez, c'était le 2 octobre au Mureau.
Ce dont nous sommes convenus avec le Conseil français du culte musulman, c'est que d'ici à 6 mois au plus tard, celui-ci allait finaliser un travail indispensable. Un travail qui consiste, premièrement, à labelliser des formations d'imams dans notre pays. Deuxièmement, à assumer une responsabilité cultuelle qui sera celle de la certification des imams. Troisièmement, d'écrire une charte dont le non-respect entraînera révocation des imams. Ce que je vous décris là, ce n'est pas l'État qui le fera. Ce sera au Conseil français du culte musulman.
Voilà, ça c'était le 2 octobre, sauf que 2 mois et demi plus tard, toujours rien. Et voilà qu'en début de semaine, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a annoncé qu'il claquait la porte des fameuses discussions du CFCM. Il dénonce une mascarade et il accuse les islamistes de noyauter le Conseil français du culte musulman. Ce sont des accusations très graves, hein, Franz-Olivier Gisbert.
Oui, enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi,
j'ai souvent
fréquenté dans le passé la mosquée de Paris. On peut dire Dalil Boubaker et son successeur aujourd'hui, Chemez Eddine Hafiz, ce sont des gens structurés, articulés. Et c'est clair que ils ne versent pas dans l'islamisme. Et si vous voulez, quand vous regardez bien l'histoire, c'est simple. Macron dit, on va faire un conseil des imams, un conseil national des imams. Pour ça, évidemment, il faut une charte. Charte des valeurs, c'est normal. Qui définissent d'ailleurs ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire ce qu'il faut pas défendre, c'est-à-dire l'islam politique, autrement dit l'islamisme. Ça, et qui comprend le salafisme, le wahhabisme, etc. Et les frères musulmans, bien entendu, qui sont évidemment assez puissants en France à travers les Turcs. Et là-dessus, il dit, bon, dans cette charte, ça, c'est tout le monde est d'accord là-dessus, a priori, à commencer par la mosquée de Paris, c'est de dire, dans ces cas-là, évidemment, il faut surtout condamner tous ceux qui fustigent la démocratie, la misogynie, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'antisémitisme, etc. Et les islamistes, et au fond, une grande partie des organisations proches de la Turquie, parce que c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire quand on regarde le Conseil du culte, le Conseil français du culte musulman, qui est dirigé par un homme d'ailleurs tout à fait estimable, Mohamed Moussaoui, mais c'est quoi? C'est un grand machin qui tire à Huadia avec des musulmans modérés, aussi des islamistes, et puis d'une certaine manière, on retrouve, et quand je parle de ces islamistes, attention, c'est souvent la Turquie, c'est-à-dire ce sont des frères musulmans qui présentent bien, etc. Parce que on arrive aujourd'hui à un problème. Alors on va dire, la mosquée de Paris est proche de l'Algérie. Ben, je vais vous dire, une grande partie des organisations aujourd'hui, on a laissé faire ça, Monsieur Macron comme tous ses prédécesseurs. Aujourd'hui, une grande partie des organisations musulmanes sont tenues par les Turcs, par la Turquie. C'est vrai en France, comme d'ailleurs c'est vrai en Allemagne, c'est vrai dans une grande partie des pays européens. Et on se trouve devant ce problème parce que les Turcs, eux, ils sont comme ça, souriants, c'est la takia, c'est voilà, faut pas. Et puis en fait, ils sont très durs sur toute une série de points, et d'une certaine manière, ils défendent l'islam politique. Donc, le recteur de la mosquée de Paris en a tiré les conséquences, et il a claqué la porte.
C'est l'affichage au grand jour, en fait, d'une fracture entre deux islams de France.
Mais qui était visible dès le départ. C'est aussi la naïveté d'Emmanuel Macron de croire que ça pouvait s'arranger comme ça. Dans l'émotion qui a suivi la décapitation de Samuel Paty, il a pensé, voilà, on va arriver à faire ça. Eh bien non. Les musulmans, en France, ils sont pas d'accord sur tous les sujets. Ils se sont retrouvés là, devant leurs contradictions. Et c'était difficile de penser que la mosquée de Paris, et d'ailleurs d'autres organisations musulmanes, pourraient accepter ça, c'est-à-dire une charte des valeurs où finalement n'importe qui aurait le droit de continuer à fustiger la démocratie, la misogynie, etc., avec les sous des Français pour faire un conseil national des imams.
Ça veut dire que ce sont les islamistes, Emmanuel Ducrot, qui donnent le là depuis la création du CFCM?
Ça veut dire que les masques tombent et qu'on se rend compte effectivement qu'il y a une fracture profonde entre un islam qui s'affiche en France comme voulant participer du mouvement démocratique français et d'autres gens qui ont d'autres intérêts, ceux d'un islam politique, et les points sur lesquels tout cela achoppe, c'est-à-dire l'ingérence des pays étrangers dans l'islam de France, c'est-à-dire des points cruciaux pour l'islam politique, la démocratie, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'antisémitisme, l'école, parce qu'il y a aussi la question de l'école et de l'ingérence dans le système éducatif. Tout ça, ça explique bien que effectivement l'islam politique n'a pas décidé de se laisser avoir, entre guillemets.
En fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la définition, justement, de cet islam politique.
Mais parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se mettre d'accord. Et je crois que peut-être, le problème, il va falloir le prendre à l'envers. Plutôt que de commencer par cette charte des valeurs, il va falloir commencer par l'argent. C'est-à-dire, qui finance l'islam de France? Et ça, c'est une vraie question, parce qu'on sait que les financements viennent effectivement de Turquie, viennent en partie du Maghreb, et viennent en partie d'Arabie Saoudite. Il va falloir se poser la question de comment l'islam de France peut se financer lui-même. Ça veut dire qu'il va falloir aller mettre les mains dans une mécanique qui est elle aussi sensible. Comment est-ce qu'on finance par exemple avec la nourriture halal? On sait que c'est un énorme marché qui échappe un peu comme ça à tous les contrôles. On sait qu'il y a aussi des sources de financement qu'on pourrait avoir avec les pèlerinages. Mais tout ça, ça va nécessiter un grand exercice de déballage et de transparence pour sécuriser des financements. Parce que le nerf de la guerre, il est là, comme toujours.
Le gouvernement, il est prêt à ce grand exercice de transparence et de déballage, comme vous dites?
Alors, ça faisait partie des trois piliers avec la formation des imams.
Des imams.
C'est un des trois piliers sur lesquels doit s'appuyer cette réforme de France. Je pense que le gouvernement y est prêt. Est-ce que les gens qui tiennent les intérêts de tout ça, notamment autour de la nourriture halal, on sait que c'est un monde qui est assez opaque, qui est assez puissant, est-ce qu'il va... oser aller s'attaquer à ça, moi je demande à voir, mais je pense que si on commence par là, peut-être qu'on a un début de solution.
Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Mostafavi? On va oser s'attaquer à ce problème de fond?
Le problème de fond, je ne sais pas, je ne suis pas convaincue que ce soit la nourriture halal, le problème de fond. Je pense
pas
que
la nourriture halal, les financements.
Non, c'est pas non, ce non, qu'on a dit, c'est oui, pas non, ce non, financement. Non,
je faisais un trait d'humour. Je pense que la question de fond que ça a révélé, c'est la question des interlocuteurs, c'est-à-dire de trouver à qui parler pour justement avoir une représentativité. C'est difficile, évidemment, bien sûr, de mettre tout le monde sous le même chapeau, de mettre des tendances qui sont totalement opposées à la fois du point de vue théologique et même du point de vue du projet politique, c'est-à-dire de la place que doit avoir la religion dans la société. C'était très naïf de penser qu'on pouvait réunir tous ces gens-là. Et ensuite, la question qui revient à se poser, c'est alors pourquoi discute-t-on avec des gens qui ne peuvent même pas s'entendre sur une charte qui reconnaît des valeurs qui sont simples, des valeurs de la République?
Donc oui, ça, le c'est constat, la question il est terrible, c'est qu'on ne peut pas rassembler l'ensemble des organisations musulmanes de France sur des principes républicains.
C'est pas totalement étonnant, Isabelle, oui, qu'on ne puisse pas... comme dans toutes les religions, il y a des tendances très différentes. L'illusion, c'est de vouloir parler avec tout le monde en même temps sur la même chose. Donc il faut essayer de voir les organisations avec qui on peut parler, qui représentent quelque chose. Ensuite, il faut se rendre compte de quelque chose. L'islam de France, j'ai beaucoup de mal avec cette expression, parce que l'islam de France, l'islam n'est pas décorrélé du reste de l'islam dans le monde, et il y a un mouvement, on le sait malheureusement, un mouvement de fond d'islamisation politique entre guillemets de l'islam, et la France forcément reçoit ça indirectement et ne peut pas totalement s'en débarrasser. Donc c'est très difficile de se dire comment totalement débarrasser l'islam des ingérences étrangères. C'est une religion par définition qui est transnationale.
Fracture entre l'islam politique et un islam respectueux de la laïcité, deux projets de société qui s'opposent. Merci en tout cas, merci beaucoup à tous les trois, les grandes voix, et à très bientôt. Et on se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1 avec le journal de 19h de Chloé Triomphe. À tout de suite.